Les paysans, deuxième partie, chapitre 9, la catastrophe. Un samedi soir, Courtecuisse, Bonnet-Beau, Godin, Tonsard, ses filles, sa femme, Vaudoyer et plusieurs manouvriers étaient à souper dans le cabaret. Il faisait un demi-clair de lune et une de ces gelées qui rendent le terrain sec. La première neige était fondue, ainsi les pas d'un homme dans la campagne ne laissaient point de ces traces au moyen desquelles on finit, dans les cas graves, par avoir des indices sur les délits. Il mangeait un ragoût fait avec des lièvres pris au collet. On riait, on buvait, c'était le lendemain des noces de la Godin, que l'on devait reconduire chez elle. Sa maison n'était pas loin de celle de Courtecuisse. Quand Rigoux vendait un arpent de terre, c'est qu'il était isolé et près des bois. Courtecuisse et Vaudoyer avaient leurs fusils pour reconduire la mariée. Tout le pays était endormi. Pas une lumière ne se voyait. Il n'y avait que cette noce d'éveillée et qui tapageait de son mieux. À 7 heures, la Bonnet-Beau entra, chacun la regarda. « La femme, dit-elle à l'oreille de Tonsard et de son fils, a l'air de vouloir accoucher. Il vient de faire seller son cheval et il va quérir M. Gourdon à Soulanges. « Asseyez-vous, la mère, lui dit Tonsard, qui lui donna sa place à table, et alla se coucher sur un banc. En ce moment, on entendit le bruit d'un cheval au galop qui passa rapidement dans le chemin. Tonsard, Courtecuisse et Vaudoyer sortirent brusquement et virent Michaud qui allait par le village. « Comme il entend son affaire, dit Courtecuisse, il a descendu le long du perron, prend par Blangy et la route, c'est le plus sûr. « Oui, dit Tonsard, mais il amènera M. Gourdon.
« Il ne le trouvera peut-être pas, dit Courtecuisse.
Il vient d'aller à couche pour la bourgeoise de la poste qui fait le monde à 7 heures.
« Et c'est sûr, dit Vaudoyer, il aime assez sa femme pour ça.
« Mais alors il ira par la grande route de Soulanges à couche. C'est le plus court.
« Et c'est le plus sûr pour nous, dit Courtecuisse. Il fait un joli clair de lune. « Sur la grande route, il n'y a pas de garde comme dans les bois. On entend de loin, et des pavillons, là derrière les haies, à l'endroit où elles joignent le petit bois, on peut tirer un homme par derrière comme un lapin, à 5 pas.
« Il sera 11h30 quand il passera là, dit Tonsard. Il va mettre une demi-heure pour aller à Soulanges, et autant pour revenir là. Ah, ça, mes enfants, si Monsieur Gourdon était sur la route...
« Ne t'inquiète pas, dit Courtecuisse.
Moi, je serai à 10 minutes de toi, sur la route au droit de Blangy, tirant sur Soulanges. Vaudoyer sera à 10 minutes de toi, tirant sur Couche. Et s'il vient quelqu'un, une voiture de poste, la malle, les gendarmes, enfin qui que ce soit, nous tirons un coup en terre, un coup étouffé.
Et si je le manque ?»«
Il a raison, dit Courtecuisse. « Je suis meilleur tireur que toi, Vaudoyer. J'irai avec toi, Bonnet-Beau me remplacera. Il jettera un cri, ça s'entendra mieux et c'est moins suspect. » Tous trois rentrèrent, la noce continua. Seulement à 11 heures, Vaudoyer, Courtecuisse, Tonsard et Bonnet-Beau sortirent avec leurs fusils sans qu'aucune des femmes y fît attention. Ils revinrent d'ailleurs 3 quarts d'heure après, et se remirent à boire jusqu'à 1 heure du matin. Les deux filles Tonsard, leur mère et la Bonnet-Beau, avaient tant fait boire le meunier, les manouvriers et les deux paysans, ainsi que le père de la Tonsard, qu'ils étaient couchés par terre et ronflaient quand les 4 convives partirent. Et à leur retour, on secoua les dormeurs qu'ils retrouvèrent chacun à sa place. Pendant que cette orgie allait son train, le ménage de Michaud était dans de mortelles inquiétudes. Olympe avait eu de fausses douleurs.
et ses douleurs se calmèrent aussitôt que son esprit se préoccupa des dangers que sa servante lui disait être imaginaires. Elle était dans sa chambre, au coin de son feu, prêtant l'oreille à tout. Et dans sa terreur, qui s'accroissait de quart d'heure en quart d'heure, elle avait fait lever le domestique. La pauvre petite femme allait et venait dans une agitation fébrile. Elle regardait à ses croisées malgré le froid. Elle descendait, elle écoutait. « Je ne sais pas ce que j'ai, » disait-elle à sa servante et au domestique, « mais il me semble qu'il arrive malheur à mon mari. » À minuit un quart environ, elle s'écria « Le voici, j'entends son cheval !» Et elle descendit, suivie du domestique, qui se mit en devoir d'ouvrir la grille. « C'est singulier, » dit-elle, « il revient par les bois de couche. » Puis elle resta comme frappée de terreur, immobile, sans voix. Le domestique partagea cette horreur, car il y avait dans le galop furieux du cheval et dans le claquement des étriers vides qui sonnaient, je ne sais quoi de désordonné, accompagné de ces hennissements significatifs que les chevaux poussent quand ils vont seuls. Sa respiration annonçait une course faite avec effroi. Bientôt, et trop tôt pour la malheureuse femme, le cheval arriva trempé de sueur à la grille, seul. Il avait cassé ses brides, dans lesquelles il s'était sans doute empêtré. Olympe regarda le domestique ouvrir la grille. Elle vit le cheval et se mit à courir au château comme une folle. Elle y arriva. Elle tomba sous les fenêtres du général en criant « Monsieur, ils l'ont assassiné !» Ce cri fut si terrible qu'il réveilla le comte. Il sonna, mit toute la maison sur pied, et les gémissements de Madame Michaud qui accouchait par terre attirèrent le général et ses gens. On releva la pauvre femme mourante et qui mourut en disant au général « Mort, ils l'ont tué !» « Joseph, dit le comte à son valet de chambre, courez chercher Monsieur Gourdon, car il faut tâcher de sauver l'enfant. Et vous, dit-il à un jardinier, allez savoir ce qui s'est passé. » « Il s'est passé, dit le domestique du pavillon, que le cheval de Monsieur Michaud vient de rentrer tout seul, les brides cassées, les jambes en sang. Il y a une tache de sang sur la selle, comme une coulure. « Que faire la nuit ? Dit le comte. « Allez éveiller Groison, allez chercher les gardes, sceller les chevaux, et nous battrons la campagne. » Au petit jour, 8 personnes, le comte, Groison, les 3 gardes et 2 gendarmes, venus de Soulanges avec le maréchal des logis, explorèrent le pays. On finit, au milieu de la journée, par trouver le corps du garde général dans un bouquet de bois, entre la grande route et celle de la vigne aux failles, au bout du parc des Aigues, à 500 pas de la grille de couche. 2 gendarmes partirent, l'un pour la ville aux failles chercher le procureur du roi, et l'autre pour Soulanges chercher le juge de paix. En attendant, monsieur de Montcornet fit un procès-verbal, aidé par le maréchal des logis. On trouva sur la grande route le piétinement d'un cheval qui s'était cabré à la hauteur du second pavillon, et les traces vigoureuses du galop d'un cheval effrayé jusqu'au premier sentier du bois au-dessous de la haie. Le cheval n'étant plus guidé, avait pris par là. Le chapeau de Michaud était dans ce sentier. Pour revenir à son écurie, le cheval avait pris le chemin le plus court. Michaud avait une balle dans le dos. La colonne vertébrale était brisée. Groison et le maréchal des logis étudièrent avec une sagacité remarquable le terrain autour du piétinement qui indiquait ce qu'en style judiciaire on nomme le théâtre du crime, et ils ne purent découvrir aucun indice. La terre était trop gelée pour garder l'empreinte des pieds de celui qui avait tué Michaud. Ils trouvèrent seulement le papier d'une cartouche. Quand le procureur du roi, le juge d'instruction et M. Gourdon vinrent pour relever le corps et en faire l'autopsie, il fut constaté que la balle, qui s'accordait avec les débris de labour, était une balle de fusil de munition, tirée avec un fusil de munition, et il n'existait pas un seul fusil de munition dans la commune de Blangy. Le juge d'instruction et M. Soudry, le soir au château, furent d'avis de réunir les éléments de l'instruction et d'attendre. Ce fut aussi l'avis du procureur du roi, du maréchal des logis et du lieutenant de la gendarmerie de la ville aux Failles.
Il est impossible que ce ne soit pas un coup monté entre les gens du pays, dit le maréchal des logis. Mais il y a deux communes, Couche et Blangy, et il y a dans chacune 5 à 6 gens capables d'avoir fait le coup. Celui que je soupçonnerais le plus, Tonsard, a passé la nuit à godailler. Mais votre adjoint était de la noce, votre meunier, il ne les a pas quittés. Ils étaient gris à ne pas se tenir. Ils ont reconduit la mariée à 1h30, et l'arrivée du cheval annonce que Monsieur Michaud a été assassiné entre 11h et minuit. À 10h15, Groison a vu toute la noce attablée, et Monsieur Michaud a passé par là pour aller à Soulanges, où il est venu à 11h. Son cheval s'est cabré entre les pavillons de la route, mais il peut avoir reçu le coup avant Blangy et s'être tenu pendant quelque temps. Il faut décerner des mandats contre 20 personnes au moins, arrêter tous les suspects. Mais ces messieurs connaissent les paysans comme je les connais. Vous les tiendrez pendant 1 an en prison, vous n'en aurez rien tiré que des dénégations. Que voulez-vous faire à tous ceux qui étaient chez Tonsard? On fit venir l'Englumé, le meunier et l'adjoint de Monsieur de Montcornet, et il raconta sa soirée. Ils étaient tous dans le cabaret. On n'en était sorti que pour quelques instants dans la cour. Il y était allé avec Tonsard sur les 11h. Ils avaient parlé de la lune et du temps. Il n'avait rien entendu. Il nomma tous les convives. À 2h, on avait reconduit les mariés. Le général convint, avec le maréchal des logis, le lieutenant de la gendarmerie et le procureur du roi, d'envoyer de Paris un homme habile de la police de sûreté qui viendrait au château comme ouvrier et qui se conduirait assez mal pour être renvoyé, qui boirait et qui resterait dans le pays mécontent du général. C'était le meilleur plan à suivre pour guetter une indiscrétion. Quand je devrais y dépenser 10 000 francs, je finirai par découvrir le meurtrier. Le général partit et revint au mois de janvier avec un des plus rusés acolytes du chef de la police de sûreté, qui s'installa pour diriger les services et qui braconna. L'on fit des procès-verbaux contre lui, le général le mit à la porte et revint à Paris au mois de février. Les paysans, deuxième partie, chapitre 10, le triomphe des vaincus. Au mois de mai, quand la belle saison fut venue et que les Parisiens furent arrivés aux Aigues, un soir, Monsieur de Troisville, que sa fille avait amené, Blondet, le curé, le général, le sous-préfet de la ville aux Failles, qui était en visite, jouait au whist. Il était 11h30. Joseph vint dire à son maître que ce mauvais ouvrier renvoyé voulait lui parler. Il disait que le général lui redevait quelque chose. Il était gris. « Bon, j'y vais. » Et le général alla sur la pelouse. « Monsieur le comte, on ne tirera jamais rien de ces gens. Tout ce que j'ai deviné, c'est que, si vous continuez à rester dans le pays et à vouloir que les paysans renoncent aux habitudes que Mademoiselle Laguerre leur a laissé prendre, on vous tirera quelques coups de fusil aussi. D'ailleurs, ils se défient plus de moi que de vos gardes. » Le comte paya l'espion, qui partit, et dont le départ justifia les soupçons des complices de la mort de Michaud. Mais quand il revint dans le salon, il y eut sur sa figure trace d'une émotion, et sa femme lui demanda ce qu'il venait d'entendre. « Mais la mort de Michaud est un avis indirect qu'on nous donne de quitter le pays. »« Moi, dit Monsieur de Troisville, je ne quitterai point. J'ai eu ces difficultés-là en Normandie, mais sous une autre forme, et j'ai persisté. » Maintenant tout va bien. Monsieur le marquis, dit le sous-préfet, la Normandie et la Bourgogne sont deux pays bien différents. Ici nous avons le sang plus chaud.
nous ne connaissons pas si bien les lois, et nous sommes entourés de forêts. L'industrie ne nous a pas encore gagné. Nous sommes sauvages. Si j'ai un conseil à donner à monsieur le comte, c'est de vendre sa terre et de la placer en rente. Il doublera son revenu et n'aura pas le moindre souci. S'il aime la campagne, il aura, dans les environs de Paris, un château avec un parc entouré de murs aussi beau que celui des Aigues, où personne n'entrera, et qui n'aura que des fermes louées à des gens qui viendront en cabriolet le payer en billets de banque, et il ne fera pas dans l'année un seul procès-verbal. Il ira et viendra en 3 ou 4 heures, et M. Blondet ne nous manquera pas si souvent, madame la comtesse.
Moi, reculer devant des paysans, quand je n'ai pas reculé même sur le Danube?
Oui, mais où sont vos cuirassiers? Dit Blondet.
Une aussi belle terre!
Vous en aurez aujourd'hui plus de 2 millions.
Le château a dû coûter cela, dit Monsieur de Troisville.
Une des plus belles propriétés qu'il y ait à 20 lieues à la ronde, dit le sous-préfet. Mais vous retrouverez mieux aux environs de Paris.
Qu'a-t-on de rente avec 2 500 000 francs?
Demanda la comtesse.
Aujourd'hui, environ 140 000 francs,
répondit Blondet.
Les Aigues ne rapportent pas en sac plus de 40 000 francs, dit la comtesse.
Encore, ces années-ci, vous avez fait d'immenses dépenses. Vous avez entouré les bois de fossés.
On a, dit Blondet, un château royal aujourd'hui pour 500 000 francs, aux environs de Paris. On achète les folies des autres.
Je croyais que vous teniez aux Aigues, dit le comte à sa femme.
Oui, mais je tiens encore plus à votre existence, dit-elle. Je vous aime encore assez pour ne pas vouloir être veuve.
Le lendemain soir, dans le salon de M. Gobertin, à la Ville aux Failles, le sous-préfet fut accueilli par cette phrase que lui dit le maire.
Eh bien, vous venez des Aigues?
Oui. « Mais j'ai bien peur que nous perdions le général. Il va vendre sa terre. »«
On ne peut toujours pas découvrir les auteurs de l'assassinat commis sur la personne de son garde ?» dit le juge d'instruction.
« Ça nuira beaucoup à la vente des Aigues, » dit Gobertin devant tout son monde. « Je sais bien, moi, que je ne les achèterai pas. Les gens du pays sont trop mauvais. Même du temps de Mademoiselle Laguerre, je me disputais avec eux. » Et Dieu sait comme elle les laissait faire.
Sur la fin du mois de mai, rien n'annonçait que le général eût l'intention de mettre en vente les Aigues. Il était indécis. Un soir, sur les 10 heures, il rentrait de la forêt par une des 6 avenues qui conduisaient au pavillon du rendez-vous, et il avait renvoyé son garde en se voyant assez près du pavillon. Au détour de l'allée, un homme, armé d'un fusil, sortit d'un buisson.
« Général, dit-il, voilà la 3e fois que vous vous trouvez au bout de mon canon, et voilà la 3e fois que je vous donne la vie. »«
Et pourquoi veux-tu me tuer, bonnet beau ? »
dit le comte sans témoigner la moindre peur.
« Ma foi, si c'était pas moi, ce serait un autre, et moi, j'aime les gens qui ont servi l'empereur. Je peux pas me décider à vous tuer comme un pigeon. Ne me questionnez pas, je veux rien dire. » Mais vous avez des ennemis plus puissants que vous. J'aurai 1000 écus si je vous tue, et j'épouserai Marie Tonsard. Eh bien, donnez-moi quelques méchants arpents de terre et une méchante baraque. Je continuerai à dire ce que j'ai dit, qu'il ne s'est pas trouvé d'occasion. Vous aurez encore le temps de vendre votre terre et de vous en aller. Je suis encore un honnête homme dans ce que je suis. Je vous le répète, si ce n'est pas moi, ce sera un autre.
« Et si je te donne ce que tu me demandes, me diras-tu qui t'a promis 2 000 francs ?»«
Je ne le sais pas, et la personne qui me pousse à cela, je l'aime trop pour vous la nommer. »«
Et quand vous sauriez que c'est Marie Tonsard ?»« Marie Tonsard est comme un mur, et moi, je n'irai vous l'avoir dit. »« Et d'elle, moi, je ne peux rien savoir. »«
Viens me voir demain matin, » dit le général.
« Ça suffit, » dit Bonnet Beau. « Si l'on me trouvait maladroit, je vous préviendrai. »
8 jours après cette conversation singulière, tout l'arrondissement,
tout le département et Paris étaient farcis d'énormes affiches annonçant la vente des aigues par lot, en l'étude de maître Corbinet, notaire à Soulanges. Tous les lots furent adjugés à Rigoux, et montèrent, malgré les demandes du général, qui, dans le concours des adjudicataires venus de tous les coins, avait envoyé un homme pour pousser, à la somme totale de 2 300 000 francs. Le lendemain, Rigoux fit changer les noms. Monsieur Gobertin avait les bois en commun et lui les vignes. Le château et le parc furent revendus à la bande noire, moins le pavillon et ses dépendances, que se réserva Monsieur Gobertin. En 1837, pendant l'hiver, au moment où l'un des plus remarquables écrivains politiques et journalistes de ce temps, Émile Blondet, arrivait au dernier degré de misère, caché sous les dehors d'une vie bruyante et débauchée, et qu'il hésitait à prendre un parti désespéré en voyant que ses travaux, son esprit, son savoir, sa science des affaires ne l'avaient amené à rien qu'à écrivailler au profit des autres, en voyant toutes les places prises, en se sentant au bord de l'âge mûr sans considération, en apercevant des sots et des niais bourgeois remplacer les gens de cour et les incapables de la restauration, et le gouvernement se reconstituer comme il était avant 1830, un soir, où il était bien près du suicide, qu'il avait tant poursuivi de ses plaisanteries, et qu'en jetant un dernier regard sur sa déplorable existence, calomnié et surchargé de travaux bien plus que de ses orgies qu'on lui reprochait, il voyait une noble et belle figure de femme, comme on voit une statue restée entière et pure au milieu des plus tristes ruines. Son portier lui remit une lettre cachetée en noir, où la comtesse de Montcornet lui annonçait la mort du général, qui avait repris du service et commandait une division. Elle était son héritière. Elle n'avait pas d'enfant. La lettre, quoique digne, indiquait à Blondet que la femme de 40 ans, qu'il avait aimée jeune, lui tendait une main fraternelle et une fortune considérable. Il y a quelques jours, le mariage de la comtesse de Montcornet et de M. Blondet, nommé préfet, a eu lieu. Pour se rendre à sa préfecture, il prit par la route où se trouvaient autrefois les aigues, et il fit arrêter dans l'endroit où étaient jadis les deux pavillons, voulant visiter la commune de Blangy, peuplée de si doux souvenirs pour les deux voyageurs. Le pays n'était plus reconnaissable. Les bois mystérieux, les avenues du parc, tout avait été défriché. La campagne ressemblait à la carte d'échantillon d'un tailleur. Le paysan avait pris possession de la terre en vainqueur et en conquérant. Elle était déjà divisée en plus de 1 000 lots, et la population avait triplé entre Couches et Blangy. La mise en culture de ce beau parc, si soigné, si voluptueux naguère, avait dégagé le pavillon du rendez-vous, devenu la villa Il Buen Retiro, de Dame Isaure Coberta. C'était le seul bâtiment resté debout, et qui dominait le paysage, ou pour mieux dire, la petite culture remplaçant le paysage. Cette construction ressemblait à un château, tant étaient misérables les maisonnettes bâties tout autour, comme bâtissent les paysans.
« Voilà le progrès !» s'écria Émile. « C'est une page du contrat social de Jean-Jacques. Et moi, je suis attelé à la machine sociale qui fonctionne ainsi. Mon Dieu, que deviendront les rois dans peu ? Mais que deviendront, avec cet état de choses, les nations elles-mêmes dans 50 ans ?
Tu m'aimes, tu es à côté de moi. Je trouve le présent bien beau et ne me soucie guère d'un avenir si lointain, » lui répondit sa femme.
« Auprès de toi, vive le présent !» dit gaiement l'amoureux Blondet. « Et au diable l'avenir !»
Puis il fit signe au cocher de partir. Et tandis que les chevaux s'élançaient au galop, les nouveaux mariés reprirent le cours de leur lune de miel.